Bon, on va donc démarrer l'exposé d'André Langanet. On est très content d'accueillir cette année André Langanet, qui est donc, comme vous le savez probablement, généticien et anthropologue. Certains d'entre vous, les plus anciens, ont suivi des expositions qu'il avait dirigées en tant que directeur du Musée de l'Homme, c'est-à-dire l'histoire naturelle de la sexualité, ça c'est la plus ancienne des expositions qui avait été très novatrice. Et puis ensuite, il y a eu une autre exposition marquante qui a été Tous parents, tous différents, vous avez peut-être vu aussi. Il est donc, je l'ai dit, généticien et anthropologue, mais aussi écrivain scientifique, des fois dans le curriculum vitae, c'est un truc que j'aime bien, ancien de Charlie Hebdo, enfin chroniqueur de Charlie Hebdo, actuellement chroniqueur dans Ciné Hebdo, et même dans un magazine que je connaissais pas auparavant, qui s'appelle Psychopathe, un peu fou comme magazine, des chroniques scientifiques, voilà. Donc le sujet, évidemment, c'est l'émigration de l'espèce humaine et les mille siècles d'immigration clandestine de l'humanité, une espèce qui a toujours eu la bougeotte. À toi la parole.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, chômeuses, chômeurs. On me dit qu'il risque d'y avoir trop de monde, alors s'il y en a qui ont des choses intéressantes à faire ailleurs, hein, ils s'en vont quand ils veulent, hein, pas de problème. Je ne suis pas susceptible, mais je voudrais aussi rendre hommage aux autres, parce que quand on me met auteur des expositions, m'a fait un truc, m'a fait un faux, une exposition dans un établissement comme le Muséum, c'est quelque chose qui se prépare à 50, 80, 100, 120 personnes, donc les autres, faut pas les oublier, c'est des équipes qui font ces travaux-là. Et en particulier, il y en a d'autres qui ont beaucoup plus bossé que moi. Vous savez ce que c'est que les patrons. C'est les rares fois où j'ai été patron. J'ai même été commissaire dans les expositions. Il y a des commissaires. Moi, commissaire. Bon, alors, c'est pour faire un titre court que j'ai mis 1000 siècles d'immigration clandestine, mais je vais tout de suite augmenter la mise. La conférence va durer 100 fois plus, ça va être 100 000 siècles d'immigration clandestine. Eh bien, je vais commencer par un bonhomme que tout le monde connaît, je suppose, ici, en bien ou en mal. Il y a effectivement du bien et du mal dans ce qu'il a fait, mais moi, en tout cas, il y a un truc super que je retiens dans ce qu'il a fait. C'est une constatation, une simple constatation, que les chimpanzés et les gorilles, qui sont nos plus proches parents animaux, ne vivent qu'en Afrique. Ils n'en sont jamais sortis. Ils sont restés dans leur forêt, dans leur savane au plus, et ils ne sont pas allés ailleurs. Alors, Charles Darwin en a déduit que, dans ces conditions, les plus lointains ancêtres des humains étaient certainement partis d'Afrique. Les ancêtres de tous les humains, tous ceux de la préhistoire, tous ceux de l'histoire. En conséquence, tous les autres humains que les Africains actuels sont des émigrés. Les seuls non immigrés, ce sont des Africains qui sont restés là-bas. Voilà. Donc il faudrait peut-être, Le Pen immigré, Sarko immigré, Ban immigré. Donc, alors je n'inviterai plus jamais Faubourg à une de mes conférences, parce qu'il dessinait des trucs comme ça pendant ce temps-là. Alors vous êtes à Marseille, vous essayez d'expliquer sérieusement l'immigration à Marseille, vous voyez un petit peu le défi, et puis vous avez un bouffon là qui vous sort le dessin, non, moi, je viens des quartiers nord. Bon, donc alors on part. Il y a très longtemps, on verra combien de temps après. On part d'un ancêtre africain inconnu. On le connaît toujours pas, d'ailleurs. Alors, les paléontologues sont des gens assez bizarres, parce qu'ils veulent tous avoir trouvé l'ancêtre de l'homme. Aucun ne veut avoir trouvé l'ancêtre du chimpanzé. C'est pourtant largement aussi intéressant. Bon, on verra plus tard qu'il... Quand un chercheur fait quelque chose, il le trouve. On verra qu'ils l'ont trouvé. Ils sont pas d'accord sur ce qu'ils ont trouvé, mais enfin, ils l'ont trouvé. Alors, on part d'un ancêtre africain inconnu, qui a eu quelques descendants comme les gorilles, par exemple, et puis il a eu aussi comme descendants les chimpanzés et les bonobos, et puis, parfois, il s'est vraiment trompé. Alors, c'est l'horreur, comment peut-on être les cousins d'un mec comme ça? On va regarder de près. Alors là, vous avez le patrimoine génétique, mais c'est un patrimoine génétique hybride. Hein. C'est comme si Sarko avait fait un petit à Cheetah, ça serait son patrimoine génétique. Vous avez, pour chaque paire de chromosomes, c'est-à-dire le support de notre matériel génétique, vous avez à gauche le chromosome de Sarko, à droite le chromosome d'un chimpanzé. Vous voyez, pas beaucoup de différence. Hein. Ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble énormément, même au niveau microscopique. Hein, c'est un de nos copains, Bernard Dutriot, qui a regardé ça de très près depuis très longtemps, depuis les années 80-85, du siècle passé. Et il a vu qu'en fait, il y avait quelques petites différences. Si vous regardez en haut à gauche le chromosome numéro 1, par exemple, il y a une zone claire où il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas, pratiquement pas de gènes là-dedans, mais qui existe chez Sarko, qui n'existe pas chez le chimpanzé. Hein. Et puis à certains endroits, vous voyez des petites flèches sur le côté. Ça, c'est des morceaux qui ont été cassés, retournés, recollés. Parce que les chromosomes, le patrimoine génétique, il y a des gens qui s'imaginent que c'est dans le béton ou c'est dans le métal, c'est quelque chose de rigide qu'on transmet. Pas du tout. Ça n'arrête pas de se casser, de se recoller. À chaque fois que vous fabriquez un spermatozoïde ou un ovocyte, hein, vous cassez complètement tous ces trucs-là. C'est épouvantable. Donc c'est fragile, ça n'arrête pas de se bricoler. Vous voyez, il y a eu toute une série d'événements entre l'ancêtre commun et Sarko d'un côté, l'ancêtre commun et le chimpanzé de l'autre. Et vous voyez qu'il y a eu plus de remaniement du côté du chimpanzé. Le chimpanzé est plutôt plus évolué d'une certaine manière. Bon, c'est un gag en fait, c'est pas vrai. Bon, alors tout ça c'est d'après des travaux très anciens de Bernard Dutriot. 1985, ça c'est pour vous montrer l'avancement relatif des sciences. Alors d'abord il s'est trompé parce que c'est 99% et pas 90%. Et puis voilà. Alors faut pas dire à Christiane Taubira qu'on a 99% de notre génome en commun avec le chimpanzé, sinon on va au tribunal. Bon là je vous montre une figure qui a un certain intérêt. Bien qu'elle ait été réalisée par quelqu'un qui a pas résisté à l'envie de mettre Adam et Ève sur cela. Alors c'est parti d'une figure de Bernard Dutriot où on voit comment les choses se sont passées ici à ce niveau-là entre les gorilles, les bonobos, les chimpanzés et puis nous. Et là il y a quelque chose d'assez bizarre. En fait, Dutriot avait constaté que au départ, quand il y a eu des pré-chimpanzés, pré-gorilles, pré-humains, eh bien, ça se séparait pas dans l'ordre qu'on attendait. Il y avait eu des hybridations. Je ne vais pas vous faire la démonstration ici, ça sera un peu long. En tout cas, je ne supporte pas de voir Adam et Ève sur une figure scientifique. Donc, on revient à la science comme on peut. Donc, Dutriot avait supposé en 85 qu'il y avait eu des hybridations entre les pré-humains, pré-chimpanzés et pré-gorilles. Et puis, voici... qu'en 2005, nous avons eu des nouvelles de Clint. C'était pas Clint Eastwood, comme vous pouvez le voir. C'était Clint qui était chimpanzé aux États-Unis. Et ce chimpanzé états-unien a été le premier anthropomorphe dont on a eu la séquence intégrale du génome. On fait son génome et qu'est-ce que l'on constate? En le comparant avec le génome humain qu'on avait bricolé sur des tas d'individus 2 années plus tôt, on constate que la comparaison des deux génomes implique qu'il y a eu des échanges génétiques entre les préhumains et préchimpanzés pendant plusieurs millions d'années. Bon, les chromosomes maintenant sont tellement différents que ça risque pas trop de continuer. N'empêche que des soviétiques et des gens de l'Institut Pasteur, entre les deux guerres mondiales du siècle passé, ont fait des expériences. On a, en particulier à l'Institut Pasteur de Conakry, on a inséminé de ferments guinéennes avec du sperme de chimpanzé, bonjour l'éthique, et qu'en Union soviétique, on a inséminé un certain nombre d'âmes de mauvaise vie avec du sperme de chimpanzé. Alors je pense que ça n'a pas marché, sinon on le saurait. Bien. Enfin, ce qui est tout à fait bien, c'est que les gens qui ont publié ça en 2005 ont oublié de préciser que ça avait déjà été démontré par Bernard Dutriot sur les chromosomes 20 ans plus tôt. Donc on enfonçait une porte ouverte. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que sur le schéma qu'on a fait tout à l'heure, il faut ajouter des échanges. Il faut ajouter des migrations entre ces lignages pendant un certain temps. Donc l'évolution des anthropomorphes, au moins des anthropomorphes africains, c'est-à-dire gorilles, chimpanzés et humains, a été une évolution en réseau et non pas une évolution dichotomique où on se sépare deux par deux définitivement. Non, on a continué à bricoler des gamins ensemble avec les pré-chimpanzés pendant longtemps. Ceci ne réjouit pas notre bonobo. Là, c'est Antonelli qui avait joué avec un peu plus de précision que Faubourg quand même. 98% du génome est identique. Effectivement, dit-il, on ne voit pas la différence. Alors, ça c'est un vieux travail, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est important par sa conclusion, qui a été fait par mon copain Pascal Gagneux en Californie en 1999, c'est-à-dire au cours de la préhistoire de la génétique, et il avait étudié l'ADN mitochondrial dont le conférencier précédent a un tout petit peu parlé, qui est transmis seulement par voie maternelle. Et cet ADN mitochondrial, à l'époque, c'était le seul qu'on savait séquencer rapidement pour pas trop faire, et il a quand même fait une étude qui a été assez marrante. Il a pris 811 humains aussi dispersés que possible par leurs origines à travers le monde. Et chacun de ces humains a son génome mitochondrial au bout d'un trait qui est d'autant plus long qu'il est plus différent des autres. Et qu'est-ce que vous voyez? Que les humains, alors on va les comparer tout de suite aux gorilles, les humains sont tous dans un petit paquet avec, pour cette séquence-là, jamais plus de 4 différences, alors que chez les gorilles, et on en avait un très petit nombre, sur un très petit nombre de gorilles, même en prenant les gorilles de l'Ouest, sur 15 gorilles de l'Ouest, on a jusqu'à 14, 18, 20 différences. Autrement dit, il s'est établi des lignages dans les populations de gorilles qui sont beaucoup plus anciens que les différences des lignages humains. Et ceci ne peut s'expliquer que d'une seule manière, à savoir que nous, les 7 milliards d'humains actuels dispersés à travers toute la planète, résultons d'un repeuplement récent. Quand on regarde dans les autres espèces, chez les chimpanzés, c'est un peu moins dispersé que chez les gorilles, mais pas beaucoup moins. Et chez les bonobos, dont il ne reste presque plus, on a beaucoup plus de dispersion que chez les humains. Nous sommes issus d'une seule petite population de la préhistoire par un repeuplement. Quand maintenant, on fait un autre type d'étude, je ne rentre pas dans les détails, mais qui permet de partager dans la variation génétique d'une espèce ce qui est dû à la variation entre les individus dans les populations, à ce qui est dû à la variation entre les populations, aux différences entre les populations. Voilà les schémas que l'on a respectivement pour les humains, les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Vous voyez que chez les humains, c'est tout rose. Ça veut dire que les différences entre individus dans les populations, c'est la quasi-totalité des différences. Et il reste... Alors, excusez-moi, mais là, il y a eu un bug. J'ai changé d'ordinateur. Donc, le 30-35%, évidemment, c'est pour les orang-outans, la deuxième ligne. Hein. Bon, 86% de variation à l'intérieur des populations, 14% de différence entre les populations. Alors après, vous vous étonnez que les anthropologues qui voulaient classer les populations humaines d'après leur variabilité génétique, ben, ils n'y arrivaient pas. Parce que pour classer, il faut avoir de l'information. Et l'information génétique qu'on a sur les différences entre populations humaines, c'est la musique, la petite musique de nuit de Mozart au milieu d'un concert de hard rock. Hein ? Vous n'arrivez pas à reconnaître les notes. Donc, on ne peut pas faire des classifications cohérentes de l'espèce humaine par la génétique. Petit résumé, les 7 milliards d'humains actuels descendent d'une unique, très petite population du paléolithique récent. paléolithique, ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore domestiqué les plantes et les animaux. Et voilà. Des échanges génétiques compliqués ont eu lieu dans les premiers temps de séparation des autres primates. Il y a du chimpanzé et du gorille en nous. Quelle satisfaction! Nous ne savons pas de quand datent les barrières entre notre espèce et nos ancêtres humains ou les autres primates, ni quels fossiles pouvaient s'hybrider entre eux. Il y a une petite exception, mais on verra ça après. Effectivement, le critère de distinction des espèces en zoologie, c'est d'abord la faculté de pouvoir s'hybrider et de pouvoir fabriquer des descendants fertiles eux-mêmes, qui vont pouvoir fabriquer des descendants. Quand pour tout reste d'un fossile, vous avez trois nonos et un bout de crâne et trois dents, c'est difficile de savoir si monsieur pouvait s'hybrider avec madame ou avec vous. Hein? Donc, on n'a pas d'informations sur la séparation des espèces dans la préhistoire. Ah, alors on va essayer de dater. La biologie moléculaire, depuis longtemps, a proposé que la séparation depuis des ancêtres communs des gorilles, chimpanzés et humains, soit quelque chose. Alors, ils ont d'abord dit entre 5 et 12 millions d'années, et puis, c'est pas très précis, hein, comme mesure. Et puis, on a un peu concentré, on arrive plutôt à 6 à 9, et puis, c'est toujours pas précis. Mais alors, c'est d'autant moins précis qu'ils se sont pas séparés, puisqu'on a vu qu'ils ont continué à s'hybrider. Comment vous voulez-vous dater la séparation quand ils se sont pas séparés? Alors, il y a des gens qui abordent ça par un autre bout, ce sont les paléontologues. Les paléontologues cherchent des fossiles. Et comme ils en cherchent, ils en trouvent. Alors, vous vous souvenez que certains avaient raconté que les origines de l'homme, c'était en Afrique de l'Est, et rien, la Rift Valley, les cavernes d'Afrique du Sud, les Australopithèques, rien. Bon, là, on est en pleine histoire de l'ivrogne sous le réverbère. Vous savez, le mec qui a perdu ses clés, et puis il cherche sous un réverbère. Alors quelqu'un d'autre lui dit, c'est là que tu les as perdus? Il dit, non, mais ailleurs, je ne les retrouverai pas. Bon, alors, en Afrique, vous avez la Rift Valley, où vous avez, par suite d'un accident tectonique, des couches de 6 à 10 millions d'années, qui sont à ciel ouvert, dans le désert. Il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Ailleurs, il faudrait creuser des puits de mine à 4 km de fond pour trouver des australopithèques. Hein, on n'y va pas. Les cavernes sud-africaines, c'est aussi, bon, on va sur les détails. Et puis voilà qu'il y a quelques années, un de mes amis cauchois, compatriote, qui vivait depuis 27 ans au Tchad, se promène avec des étudiants tchadiens, et parmi eux, Haroun Tatoum Djoumtou Balbaï, excusez la prononciation, découvre ce fossile, que l'on appelle Toumaï. Alors Toumaï, c'est une belle histoire quand même, parce que le chef de l'expédition, qui pendant ce temps-là sirotait son café ou son whisky à Poitiers, est arrivé dès qu'il a été prévenu, et il a fait virer le mec qui avait entraîné les étudiants dans les vents de sable. Et depuis, il a été élu prof au Collège de France pour la découverte de Toumaï. Comme quoi, vaut mieux rester à Poitiers que d'aller s'emmerder au Tchad. Hein. Bon. Alors, d'autre part, sur cette image, vous pouvez aussi remarquer un truc un petit peu bizarre. Toumaï, en fait, c'est essentiellement le crâne que vous avez là et une partie des os. Mais il y a aussi d'autres os. Et ils sont orientés, alignés, vers la Mecque. Ah putain! La Mecque! Toumaï est daté de 7 millions d'années. Les muslims, ils ont fait fort sur ce coup-là. Bon, alors il y a quand même une explication ethnographique, c'est que les Touaregs, quand ils trouvent des ossements dans le désert, ils ont tendance à les à les remettre et à les orienter. Mais alors, il y a des os d'animaux, il y a tout un mélange avec les restes de tout mal. Ça, c'est pas dit dans les publications du Collège de France, ni dans la publication de Nature. C'est dit dans d'obscurs journaux sud-africains qui ont été les seuls à accepter de publier des choses pareilles. Voilà. Alors Faujour, évidemment, a continué à me saboter. Toumaï, c'était quelqu'un de très dispersé. Alors, moins 6 millions d'années, moins 7, à une époque pareille, on n'est pas à un million d'années près. Hein. Alors celui-là, je vous le montre, parce que il descendait de ses ancêtres communs, forcément, et on le retrouve en Géorgie, à 1 800 000 ans, à Dmanisi. Donc, ils étaient sortis d'Afrique, les descendants de cet ancêtre commun. Et longtemps avant Sapiens, longtemps avant nous. Au lac Turkana, on en a qui sont assez, qui ressemblent assez à Edmani ici, vers 1 600 000 ans. Et puis allez, on va passer en Palestine parce que vous avez promis 1000 siècles et il faut quand même y arriver à ces 1000 siècles. Alors, en Palestine, entre 110 000 et 100 000 ans avant nous, on trouve deux sortes d'humains. Deux sortes d'humains qu'on peut distinguer, mais qui sont pas si différents que ça. Ils se ressemblent beaucoup. Et ils sont des fois à quelques kilomètres les uns des autres, mais jamais ensemble au même endroit. Alors, il y a eu des tas d'hypothèses pour expliquer ça. Il y a des gens qui ont pensé que le climat avançait, reculait en latitude, et puis que de temps en temps, c'était les uns qui étaient adaptés au chaud, les autres adaptés au froid, etc. Tout ça, c'est du roman feuilleton. Personne n'y était. Tout ce qu'on sait, c'est que les uns comme les autres, ils enterrent leurs morts avec des rituels funéraires et des orientations, pas vers la Mecque, mais avec des orientations des tombeaux et des squelettes, des positions rituelles, des restes de pollen. Ils mettaient des fleurs dans les tombes, déjà, et des massacres de cervidés dans certaines tombes. En France, nettement plus tard, à 70 000 ans, des Néandertaliens avec un délit de faciès. Ah, les bougnoules qu'il y avait en Europe. Regardez un petit peu. Bon, il y en a qui ont quand même un menton, qui ont l'air un peu moins patibulaire. Et puis, en bas, il y a une petite que j'aime bien parce que j'ai été responsable de sa conservation au Musée de l'Homme pendant ces nombreuses années à Paris. C'est le fossile Cro-Magnon II. Un fossile Cro-Magnon II. On parle toujours de Cro-Magnon, hein. Cro-Magnon I, c'était un abominable vieillard avec une mycose sur le front. Il avait au moins 55 ans, ce qui était vieux à l'époque. Et on montre toujours Cro-Magnon I. Et on ne montre pas celle que nous avions surnommée Yasmina. Ou quand on la montre, c'est pas à son avantage. Voici la reconstitution de Cro-Magnon I. Cro-Magnon I, le vaillant chasseur qui revient à la grotte de l'abri de Cro-Magnon. Et voici l'abominable Poufias qu'on lui a mis comme épouse. Cro-Magnon II, elle, ah ben non, moi j'imagine autrement, hein. Yasmina, pour moi, c'est... J'ai trouvé ça en faisant Google Cro-Magnon, hein. Ouais. Donc, la condition féminine à travers les âges, quand vous aurez fini, vous m'apporterez un petit café, hein. Eh bien, le sexisme, le machisme poursuit la préhistoire et continue depuis que les paléontologues ont numéroté les Cro-Magnons 1 et 2. 1 et 2. L2. Néandertal. Donc en Europe, Néandertal a un délit de faciès. Faujour, j'en ai assez, Faujour. Lucie Nabila, quoi, t'es néandertalienne et t'as pas de poils, non, n'est pas de poils, non, mais allô. Bon, dernière nouvelle de Néandertal. Néandertal, c'est le fossile, c'est la reconstitution avantageuse du fossile de la chapelle au sein en haut, parce que en bas, c'est pas Néandertal, c'est mon copain Svante Paabo qui a fait des recherches sur la génétique de Néandertal. Et qui a réussi, chose extraordinaire, à retrouver non seulement de l'ADN mitochondrial, relativement facile, mais aussi de l'ADN nucléaire de Néandertal, dont on connaît maintenant une grande partie de la séquence. En 2004, j'avais travaillé sur les fossiles du Musée de l'Homme, et l'ADN mitochondrial avait suggéré une très longue séparation entre les Néandertaliens et les séquences actuelles que nous avons tous. Et puis voilà qu'en 2010, l'ADN nucléaire apporte un résultat totalement contradictoire. Un métissage et peut-être une divergence récente entre les Néandertaliens et les Sapiens. Néandertal serait-il une seule simple variation à l'intérieur de Sapiens ? Une variation raciale. Et pas du tout une espèce différente, comme même nous, nous l'avions écrit de bonne foi. On avait cru qu'ils étaient séparés, on ne dit pas... Pas sûr, mais bon, peut-être une espèce. Alors, on va changer de sujet, puisque je ne veux pas en dire beaucoup plus de la diversité de Néandertal. Vous allez trouver dans la littérature, dans la presse, des tas d'improvisations. On vous donne la couleur du poil de Néandertal. Y a des gens qui vont vous parler du comportement sexuel des Australopithèques. Avec Trononos, c'est très fort. Y a un Américain qui s'appelle Lovejoy. Je ne vais pas inventer son nom, il s'appelle vraiment Lovejoy, hein, et il a écrit des trucs, des livres entiers sur le comportement sexuel des Australopithèques. Lucy in the Septième Sky. Bon, moi je ne parle jamais de diversité sans parler d'un méchant Allemand qui était vraiment contre les Français et qui avait démissionné de toutes les académies. À la guerre de 14, August Weismann, qui a été le premier à observer ce qu'on appelle l'enjambement, le crossing over, le mélange des chromosomes qui fait qu'ils se cassent et qu'ils se recollent, hein, et il en a déduit des choses formidables de cette recombinaison génétique des chromosomes, je passe sur les détails, il en déduit que aucun individu dans une population sexuée ne peut être semblable à aucun autre, sauf si c'est un clonage comme les jumeaux, les triplés, les vrais, ou des trucs comme ça. Deuxième chose, à chaque génération, des combinaisons apparaissent qui n'ont jamais existé avant et qui n'existeront peut-être plus jamais. Donc, à part les jumeaux qui nous emmerdent, dans l'espèce humaine, on est tous différents les uns des autres et on est différents de ceux qui nous ont précédés et ceux qui viendront seront différents de nous. Et c'est ça cette diversité, les 86%, c'est ça l'essentiel. On ne peut pas fabriquer deux fois le même. C'est techniquement impossible, sauf si on fait du clonage. Mon ami Kerali a extrêmement bien résumé ça sur la couverture du Psychopathe en octobre 2002. Hein. Les lois de la génétique sont simples. Il y a quatre situations à connaître. L'enfant peut être comme son père, pour un caractère. Il peut être comme sa mère. Il peut être comme les deux à la fois, ou il peut être comme aucun des deux. À part ça, les lois de Mendel, c'est des conneries. C'est le développement de cette proposition extrêmement simple. Et ça, c'est vrai pour tous les caractères, indépendamment les uns des autres. Ce qui fait que quand vous avez ces quatre possibilités, et que vous élevez 4 à la puissance du nombre de caractères que vous considérez, vous arrivez à un infini qui est pire que l'infini des astronomes. Plus de possibles que de particules dans l'univers. Hein. Les astronomes... Bon, alors comment est-ce répartie cette diversité? On a grosso modo les mêmes variantes des gènes partout, à quelques détails près. Manque de peau, les détails en question, on verra que c'est des détails visibles. Donc les gens ne parlent que de ce qu'ils voient, et nous on parle de ce qu'on sait. Et ce qu'on sait... Quand on étudie des gènes répartis sur l'ensemble des chromosomes humains, comme l'a fait Estella Polony lors d'un séjour à Stanford, et quand on calcule des distances génétiques entre les populations par les différences des fréquences de ces mêmes gènes qu'elles ont, eh bien, on réussit à organiser ça sous la forme d'un arbre, et quand on a la curiosité de placer cet arbre sur une map monde, on s'aperçoit qu'il y a une coïncidence à peu près complète, qui mathématiquement se traduit par une énorme corrélation entre les distances génétiques et les distances géographiques. Hein, s'il y a des statisticiens parmi vous, ils savent que 0,6 sur des caractères comme ça, c'est une énorme corrélation. Et puis il y en a juste un groupe qui fout la merde, hein, c'est les Européens là, c'est les Sarkos. Hein. Pourquoi ? Bah parce qu'ils sortent au Proche-Orient plutôt que sortir en Europe. Bah oui, mais ils en viennent du Proche-Orient, on l'a vu, hein, donc c'est pas étonnant. Donc grosso modo, on a une contrainte géographique majeure qui vient simplement de l'histoire du peuplement de la planète. Cette histoire, on l'a à peu près reconstituée. On est donc parti d'Afrique en des temps anciens, à plusieurs reprises, et puis on est passé évidemment par la Palestine, chemin obligatoire, ou par l'Arabie peut-être pour certains plus tard, et puis on a conquis le monde, voilà, il y a 60 000 à 50 000 ans, on est allé jusqu'en Australie. Pas mal quand même, hein. Les cueilleurs-chasseurs, ils sont passés vraisemblablement par la route du bord de mer pour aller jusque là-bas, mais peu de temps après, ils sont arrivés en Inde, à l'intérieur des terres. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? On a peuplé la Chine, on est remonté vers les zones nord. On s'est adapté au froid simultanément dans des aires différentes. Tout ceci a varié évidemment en fonction des climats. On voit que vers l'Asie, il y a eu un peuplement nord, par le nord et par le sud de l'Himalaya. Et puis on est allé en Amérique, alors là il y a des querelles terribles pour savoir quand on y est arrivé la première fois. Je n'entre pas dans le détail de ça. Mais il y a 10 000 ans, toute l'Amérique était peuplée depuis longtemps, et on invente l'agriculture. Et là, tout change. Parce que avant, on était des primates rares. Les populations de chimpanzés ou de gorilles, c'était des dizaines de milliers, au plus des centaines de milliers, jamais un million. Et nous, c'était pareil au Paléolithique. Il faut en moyenne 2 km² pour nourrir un chasseur-cueilleur. Et puis les agriculteurs, ils peuvent être 50 fois plus nombreux. Donc à partir du moment où on domestique les aliments, les plantes et les animaux et qu'on produit de la nourriture, on est beaucoup plus nombreux. Et puis comme on cherche aussi à prendre les territoires des autres, les chasseurs-cueilleurs, ils se retrouvent dans les déserts ou dans les glaces. Et puis, pour se battre avec les autres, il vaut mieux être plus nombreux. On commence à se fixer au territoire et on commence donc à avoir des différends pour les territoires. On commence à mettre des frontières et à déclarer que les autres sont des clandestins. Hein ? Le néolithique, ça, quelle mauvaise idée d'avoir inventé l'agriculture. Alors, la conséquence de cela aussi, c'est que les populations qui peuplent tout l'ancien monde et même le nouveau sont en contact les unes avec les autres. Qu'est-ce qu'elles font quand elles sont en contact, les populations ? L'amour, la guerre. Et donc, les veines y passent. Hein ? Les veines y passent de la Bretagne au Kachamka et de l'Afrique du Sud à la Laponie. De proche en proche. De temps en temps, il y a des mecs qui font un grand trajet, mais il suffit d'aller se marier un peu plus à l'ouest ou un peu plus au nord, se marier, d'aller copuler, d'aller 50 km plus loin, à droite, à gauche, etc. Et puis les veines, ils se baladent. Et on a des cas où on a pu tracer la manière dont ils s'étaient baladés, dater quand ils étaient arrivés ici ou là. Et ils s'est établi comme ça, ce que nous avons appelé dans l'exposition « Tous parents, tous différents », un réseau génétique humain. Et vous voyez que ce réseau génétique humain qui a été construit uniquement d'après les fréquences des gènes dans les populations, il vous reconstitue grosso modo la planisphère, la carte de la planète. Nous avons la géographie dans nos gènes. Voilà. Et puis le reste, après, c'est du détail, on va peupler un petit peu tout. Alors tout ça se retrouve dans la distribution des gènes, je passe, vous voyez, on retrouve toujours la même forme en croissant sur les continents de l'Ancien Monde, avec éventuellement des prolongements dans d'autres directions. Mais alors vous allez me dire, on n'est pas tous pareils. Ben non, on n'est pas tous pareils. Hein, le regretté Albert Jacquard avait écrit un livre Après qu'on ait conçu l'exposition Tous pareils, tous différents, il avait écrit un livre qu'il avait appelé Tous pareils, tous différents. Mais non, Albert, pardonne-nous. Hein? Pas pareil du tout, on est tous différents. Et on est parents, ça veut dire qu'on a des ancêtres communs, mais qu'on est devenus différents, tous différents les uns des autres. Et on diffère en particulier par les couleurs de peau. Ça, c'est une très vieille représentation des couleurs de peau d'origine supposée des populations avant 1492. Ouais, on est obligé de faire des circonlocutions parce que depuis, on s'est beaucoup déplacé. Hein. Donc, les Américains, ils sont pas blacks, hein, sauf en Amérique centrale. Ah, voilà un truc intéressant. On sait maintenant que Thor Heyerdahl, c'était de la connerie. Hein, les Américains, ils sont tous arrivés par le détroit de Bering. Ils se sont répartis du nord au sud. Et puis maintenant, on retrouve les clairs au nord et au sud, et les foncés au milieu, autour de l'équateur. Alors ça, ça peut s'expliquer de deux manières. Il faut toujours considérer toutes les hypothèses en science. La première hypothèse, c'est qu'ils sont arrivés, il y avait des clairs et des foncés au détroit de Bering, et à ce moment-là, les petits foncés ont galopé sous l'équateur, et les grands clairs, ils se sont répartis entre l'extrême nord et l'extrême sud. Bon, je vois qu'il y en a d'entre vous qui ne sont pas d'accord. Bon, et puis la deuxième hypothèse, c'est qu'ils sont arrivés, ils étaient tous pareils avec la diversité qu'ils avaient déjà entre eux, ils se sont répartis, et c'est après qu'ils sont devenus plus foncés ou plus clairs, selon qu'ils étaient dans les zones intertropicales, comme sur les autres continents, ou qu'ils étaient dans les zones tempérées froides, nord et sud. Donc, quand on y regarde de plus près d'ailleurs, la relation à l'ensoleillement est évidente parce que la côte pacifique a des populations plus sombres que la côte atlantique et la luminosité du soleil est plus forte sur la côte pacifique que sur la côte atlantique. Donc là vraiment, c'est l'ensoleillement des 20 000 dernières années qui a décidé de la pigmentation des populations. Alors ça, c'est résumé par un transect depuis les plus foncés, les Sahras du Tchad, c'est ceux avec lesquels on a mesuré les couleurs de peau les plus foncées, jusqu'aux plus clairs, je suis désolé, les plus clairs c'était les Belges pour une fois. Hein? Mais vous remarquerez quand même une chose. C'est que en Europe, on a une vision très biaisée des couleurs de peau. Parce que on avait, je dis bien on avait, extrêmement peu de diversité. Les populations à peau claire ont sans doute fait l'objet d'une sélection intense dans la préhistoire, en particulier pour des raisons de biosynthèse de la vitamine D. Et il y avait moins de variations en Europe que dans les populations africaines plus au sud. Ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Ça peut être aussi l'effet d'un goulot d'étranglement lors de l'émigration vers l'Europe. Je ne prends pas parti sur les causes. Hein. Mais toujours est-il que c'est un fait. Il y a une bien plus grande variabilité de la couleur de peau chez les populations non européennes. Ça, c'est des statistiques plus récentes qui ont été faites sur des femmes de tous les pays. Les orientales sont ici, les noires américaines là, et tous les autres sont là. Vous voyez encore une dispersion géographique de la répartition des couleurs de peau. Ça va se retrouver pour d'autres caractères physiques, par exemple la frisure des cheveux, qui a été étudiée chez des femmes aussi, on se demande pourquoi. Et on a ici une répartition des forme de cheveux. Je ne parle pas de la couleur, hein. C'est pas blonde brune, là c'est simplement plus ou moins raide, plus ou moins crépus. Et alors, à droite c'est les africaines tout en bas avec une énorme variation, et puis ça va jusqu'à très peu de variations chez les orientales, c'est inversé par rapport à la géographie, et ça peut se représenter par des groupes qui vont des très lisses aux très frisés. Allez, un petit jeu pour vous reposer un peu. Cherchez les Africains. Première réponse, il n'y en a pas. Deuxième réponse, tout le monde. Ouais. Alors, du point de vue de l'origine, tout le monde. Du point de vue des résidents, elle seule. Ceci, c'est pour vous montrer que sur tous les continents, là, on a pris l'Asie, mais sur tous les continents, il y a des variations extrêmes des couleurs de peau. Conclusion. La conclusion, c'était le titre de notre exposition. Nous sommes tous parents parce que nous avons une origine commune récente, et nous sommes tous différents parce que, comme Weissmann l'avait compris le premier en 1896, et il a fallu les travaux sur la recherche, sur la compatibilité pour les greffes d'organes, pour que dans les années 60, on redécouvre timidement qu'on était tous différents les uns des autres, que chacun d'entre nous avait une carte d'identité génétique et biochimique différente de celle de son voisin. Voilà. Comme quoi, des fois, il y a des gens qui comprennent des choses, et puis que pendant longtemps, il a fallu le retrouver empiriquement, le retrouver à la paillasse, pour que cette idée extrêmement simple, qui résulte d'une simple observation de ce qui se passe, amène à la conclusion que nous avons. Et puis dans les conclusions, je voudrais divaguer un petit peu. Rappeler que tout ceci, on y comprend quelque chose que dans le cadre de la théorie de la transformation des espèces, de la théorie de l'évolution. Sans évolution, il n'y a pas de biologie moderne. Donc, les créationnistes, ils n'ont rien compris. Deuxième chose, rien dans ce que nous avons vu du point de vue biologique ne nous prédispose au racisme, à l'agressivité, à la guerre. Donc l'humain, comme l'inhumain, est dans la culture. Dieu n'existe pas, si prétendent certains. Voilà. Allez, une note optimiste, un mot sur l'avenir. Un mot, juste un mot sur l'avenir. Mieux vaut en rire. Ni papa ni maître se fait-il tatouer. Dans 100 000 ans, Fukushima, on en rigolera. Depuis ce matin, il est là à ne rien foutre. On voit un petit paléolithique de dans 100 000 ans qui est avec un caillou relié par une ficelle à un autre caillou sur lequel on voit un faceur qui tue un mammouth. Hein. Tout ça, c'est pour ceux qui ne voient pas. Dessin de Jim Six, j'aime beaucoup. Et puis merci à tous ceux grâce auxquels j'ai pu vous raconter ces histoires-là en espérant pas avoir été trop fiant.
On a un bon moment pour les questions. Je vais prendre celles les plus proches et puis on va faire passer le micro ensuite. Qui est-ce qui pas loin?
Voilà. Bon, j'ai bien compris que la différence de faciès, elle était visible par le déplacement des gens. Il y a juste une chose que j'ai pas compris. Pourquoi les Chinois ont les yeux bridés? Parce que la couleur de la peau, je peux comprendre, mais après, toute cette de l'Asie qui a les yeux bridés, il y a peut-être certainement une raison. Vous la connaissez peut-être pas.
Alors, bonne réponse. Il y a sûrement une ou plusieurs raisons. On ne les connaît pas. Je ne vous dis pas toutes les hypothèses qui ont été faites à ce sujet. Les anthropologues classiques, les anthropologues coloniaux, qui étaient essentiellement des médecins militaires coloniaux qui s'ennuyaient, ont fait toutes les hypothèses possibles. Ils ont dit que les ancêtres des Chinois avaient plissé les yeux pour éviter les vents de sable. Mais tant que vous ne pouvez pas vérifier parce que personne n'y était, ces hypothèses ne sont pas scientifiques. Alors, c'est comme ça, on est bien obligé de faire avec, on peut déterminer quels sont les mécanismes qui font qu'on a des brides oculaires extrêmement variables, d'ailleurs selon les populations, entre ceux qui ont des brides extrêmes. Ça dépend aussi de la forme des pommettes, ça dépend de tas de choses, de caractère des graisses, de caractère des os. C'est extrêmement différent entre les Inuits, les Esquimaux et puis les Mongols qui peuvent avoir des yeux très bridés. Mais ce n'est pas non plus un caractère exclusif des populations orientales. En Russie, vous avez plein de gens qui ont un look européen et puis des yeux bridés. Parce que figurez-vous, que quand ils se mélangent entre eux, les vents, ils fabriquent des tas de nouveaux types physiques. Vous allez aux Seychelles, vous allez, à l'île Maurice, vous allez trouver des vents qui vont avoir les cheveux crépus et blonds, qui vont avoir les yeux bridés et bleus, etc., etc., etc. Donc tout ça, ça recombine. Et comme ce sont des caractères qui sont apparus il y a très longtemps, personne n'était là pour faire une analyse scientifique de la manière dont ils sont apparus. Donc même quand on saura précisément quelle est la base génétique ou embryologique qui fait que à un moment ça tient en plus et les yeux sont plus bridés, ou bien des bourrelets de graisse se forment qui vont contribuer à faire des yeux bridés, c'est pas pour ça qu'on saura pourquoi c'est apparu. La science, vous savez, son boulot c'est de répondre au comment. Les pourquoi, on laisse ça aux théologiens.
Alors moi j'ai deux questions. La première, est-ce qu'on sait si c'est l'agriculture qui a précédé la sédentarisation ou le contraire ? Première question. Et deuxième question, au niveau de la couleur de la peau, est-ce que c'est du coup l'épigénétique, donc c'est-à-dire les facteurs environnementaux qui ont pérennisé ça et qui ont inscrit la couleur de la peau, enfin la différence dans la mélanine dans le code génétique, ou alors est-ce que c'était directement dû au crossing over
Je réponds d'abord à la deuxième question, parce que c'est plus facile. La couleur de la peau, c'est à la fois de la génétique et de l'épigénétique. Si vous allez bronzer ou si vous allez au solarium, c'est épigénétique. Vous avez une réponse physiologique qui conduit à la stimulation des mélanophores, à la fabrication de plus de mélanine, voire d'un mélanome si vous vous irradiez trop. Bon, donc ça c'est de l'épigénétique. Mais par contre, bien entendu, vous pouvez mettre des Sarah du Tchad en zone polaire, on leur demande la vitamine D pour qu'ils fassent pas de raphitisme pendant 15 générations, c'est pas pour ça qu'ils vont devenir clairs. Ils vont peut-être, mais il faudra extrêmement longtemps. Donc ça c'est une évolution qui est clairement génétique. Donc il y a à la fois de la génétique et de l'épigénétique dans la couleur de la peau. Première question, plus difficile, parce que moins on a d'informations, et plus on est obligé d'inventer. Et plus, quand on invente toujours des choses simples. Il y a des gens qui inventent du compliqué, mais ça c'est des artistes. Les scientifiques qui essayent d'inventer des choses simples. Alors, si on veut être sérieux, il faut observer ce qui se passe chez les chasseurs-cueilleurs et chez les agriculteurs. D'abord, chez les chasseurs-cueilleurs, tout dépend de où ils vivent. Certains vivent dans des forêts dont l'environnement est permanent. En forêt équatoriale, par exemple, vous avez le même environnement toute l'année. Donc, ils restent sur place. Ils font comme les gorilles, ils n'ont pas de raison d'aller ailleurs. Et puis, vous en avez d'autres qui vivent dans des régions avec une forte saisonnalité. Vous prenez par exemple les Khoisan, ceux qu'on appelait les Bushmen, ils vivaient dans des régions où il y avait des saisons extrêmement sèches et des saisons humides. Comme ils avaient besoin d'eau, ils ne restaient pas dans le désert en pleine saison sèche. Donc ils avaient des cycles annuels de migration qui leur permettaient d'aller récupérer les plantes qui avaient poussé dans les régions les plus sèches en saison des pluies. Par exemple, ils faisaient ça pour récolter des melons d'eau. C'était à la fois une source de boisson et une source de nourriture. Et donc, ils n'étaient pas sédentaires, ils étaient forcément nomades. Alors après, on invente l'agriculture. On a des éléments pour penser que l'agriculture a été inventée sous deux formes. La forme la plus ancienne dont on ne parle jamais est vraisemblablement l'horticulture jardinage. Les Khoisans, par exemple, leur melon d'eau, il les ressemait d'une année sur l'autre. Il les mangeait, hein, mais au lieu de mettre les pépins à la poubelle, il les ressemait de manière à ce qu'il y ait à nouveau des melons d'eau au même endroit l'année d'après. Donc ça, c'est déjà une forme d'agriculture. C'est pas parce qu'ils abandonnaient les lieux et qu'ils revenaient 6 mois ou 1 an plus tard qu'ils n'avaient pas déjà produit de la nourriture de cette manière-là. Et puis, dans les forêts équatoriales, on a des traces, semble-t-il, d'irrigation, de plantation de tubercules en Nouvelle-Guinée qui pourraient dater de 15 000 ans, c'est-à-dire avant le croissant fertile et l'agriculture des céréales. Par ailleurs, entre le paléolithique où on est théoriquement cueilleur-chasseur, dit cueilleur-chasseur parce que la cueillette généralement faite par les femmes, c'était l'essentiel du boulot et de la nourriture. Les hommes, ils chassaient, ils allaient, hein, comme ils vont au foot maintenant, hein, bon, de temps en temps ils ramenaient un beefsteak, c'était pas mal, mais bon, l'essentiel c'était gratter pour ramasser des tubercules, c'était ça l'essentiel de leur alimentation, soi-disant chasseur-cueilleur, dans la plupart des endroits. Je parle pas du Groenland, évidemment, où il n'y a pas de plantes. Là, c'est clair qu'ils étaient chasseurs. Bon, mais autrement. Donc, les gens qui vivent dans les forêts équatoriales et qui font des abris quand c'est des abris permanents, ils font toujours pousser des calebasses ou des trucs comme ça dessus. Et puis, ils ont aussi des légumes, en particulier des tubercules, des ignames, des patates douces selon les régions, qu'ils replantent et... Donc c'est venu progressivement. Et puis on sait aussi qu'entre le paléolithique et le néolithique, il y a eu ce qu'on a appelé le mésolithique, qui est une période où on a certainement ramassé les céréales qui poussaient naturellement, avec d'ailleurs un certain nombre d'énigmes. Une des énigmes étant le blé. Parce que le blé, c'est un hybride triple de 3 plantes sauvages. Ah! Donc, au mésolithique, on a fait des manipulations génétiques. Le blé, c'est un OGM. Hein. C'est le plus vieux des OGM. Alors, est-ce qu'il est apparu spontanément? Mais il a quand même fallu des vents pour le sélectionner et le récupérer, et le replanter après. Bon, je laisse tomber le blé. Mais en tout cas, on a commencé à ramasser d'autres céréales qui poussaient au croissant fertile. Le riz en Thaïlande ou en Chine... en Chine du Sud, ça a commencé il y a plus de 8000 ans. Le maïs en Amérique, il y a plus de 9000 ans. Le millet dans le nord de la Chine, je crois que c'est 7000 ans. Et on a des indices à l'heure actuelle qui laissent penser qu'il aurait pu y avoir une domestication des céréales au Sahel qui est bien plus ancienne que tout ce qu'on a dit. Pour le moment, on a des indices sûrs vers 5000-6000 et c'est peut-être encore beaucoup plus. On n'en parle pas trop parce que ça repose sur vraiment des indices extrêmement peu fiables. Donc, tout ceci s'est fait dans le désordre, pas forcément dans le même ordre dans différents endroits, en fonction des ressources locales, et puis en fonction de, bon, il y avait peut-être des malins, gourds, qui se sont aperçus, oh, bah tiens, qu'est-ce que c'est ce blé sauvage, il a l'air bizarre, il est plus intéressant, les graines sont plus grosses. Il y a un caractère aussi qui a été sélectionné il y a très longtemps, mais au néolithique, c'est le fait que les grains ne se détachent pas. Dans le blé, c'est essentiel pour pouvoir le récolter. Il ne faut pas que les grains tombent. Dans beaucoup de céréales, quand le grain est mûr, il tombe. S'il tombe par terre pour le ramasser, c'est un peu galère. Hein. Tandis que s'il reste sur l'épi, donc ça fait très longtemps qu'on a sélectionné des variétés dont les grains ne tombaient pas. J'ai répondu ? Merci. Bon, ben bah, voilà, vous êtes compris. Ah,
non,
bon,
non, il y
a des
plein de questions. Il y en avait une par la gauche, je crois que
j'ai raté. François.
C'est où,
Puisque tout bouge tout le temps d'un point de vue, d'un tout point de vue et d'un point de vue génétique, est-ce qu'on, l'allure qu'on a aujourd'hui, on sera semblable dans 10 000, 100 000 ou 1 million d'années?
Je ne suis pas Monsieur Soleil.
C'est le prochain exposé, le Soleil.
Alors, je vais prendre mes précautions, hein. Parce que contrairement à ce dont j'ai l'air, j'aime pas trop raconter des conneries. Mais j'ai des collègues japonais qui se sont beaucoup avancés il y a quelques temps. Ils avaient fait une exposition à Tokyo sur le visage humain. Et parmi eux, il y avait évidemment de brillants informaticiens spécialisés en représentation et étude des formes. Et alors, ils avaient pris tous les fossiles japonais connus, depuis le plus ancien, pas très ancien, hein, le Japon c'était 10 ou 12 000 ans, c'était pas ancien du tout. Et puis, ils avaient mis en équation la transformation des fossiles, depuis ces fossiles les plus anciens en passant par les plus récents, jusqu'aux Japonais actuels. Et puis après, ils avaient fait tourner les ordinateurs pour continuer, et ils arrivaient dans, je sais plus combien, dans quelques millions d'années, ils arrivaient à des mecs qui avaient un cerveau gros comme ça, avec une espèce de bec d'oiseau, plus une dent, rien du tout. Voilà, je leur en laisse l'entière responsabilité.
Bonjour, on entend de plus en plus parler, de la sélection par des critères culturels, par exemple de beauté à un moment donné. Je l'ai entendu, par exemple, pour les yeux bridés, qu'à un moment dans l'histoire, il y a eu une mode, quoi, en gros, des yeux bridés, et que ça s'est reproduit. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, j'en pense deux choses. D'abord, c'est une vieille idée. C'est une idée qui remonte à Charles Darwin lui-même, qui, dans son traité sur la sélection sexuelle, avait, d'après des récits de voyageurs qui avaient été en Angola et qui avaient décrit ces populations d'Angola qui ont souvent des teintes de peau un peu rouges, dites chocolat par Charles Darwin, que des fois ils accentuent en se peignant complètement avec de la terre rouge. Et il avait dit que quand on avait des couleurs de peau comme cela, qui étaient très caractéristiques d'une population, ça venait sans doute d'une sélection par l'esthétique, que si cette préférence était évidemment répercutée sur de nombreuses générations, et si à l'occasion on expulsait ou on tuait ceux qui étaient trop clairs ou trop foncés, on arriverait à sélectionner. Bon, alors ça, pour tout ce qui est caractère quantitatif, être plus ou moins ceci, plus ou moins cela. Hein. En génétique, il y a deux sortes de caractères. Il y a les groupes sanguins, vous êtes A ou vous n'êtes pas A. Hein. Bon. Et puis, ça, c'est les caractères qualitatifs, présent, absent. Très simple. Pour la génétique, c'est... Ouais, mais... Et puis, il y a les caractères de ce que vous appelez des fois la génétique normande, par rapport à mes origines cauchoises, c'est la génétique du peut-être ben oui, peut-être ben non. Alors ça, hein, tout ce qui est caractère quantitatif, les couleurs de peau, la taille, la musculature, tout ce que vous voudrez, tout ça, on est plus ou moins quelque chose. Ça, c'est très compliqué à étudier. Mais il y a une chose que l'on sait, c'est qu'il y a de la génétique derrière parce que ça répond à la sélection. En expérimentation animale, vous changez la couleur de la peau ou du pelage d'un rat, d'une souris, d'un cacatoès, ce que vous voudrez, en 10 à 20 générations de sélection. Le fait que les humains en Amérique aient changé de couleur de peau en 10 000 ans, ça prouve que la couleur de la peau humaine, ça répond de manière identique à la sélection. La taille, ça répond de manière identique à la sélection. Dans les zones tempérées froides, on est plus grand que dans les zones tropicales. Donc, Voilà. Alors, pour les yeux bridés, ce que je peux vous dire, c'est la deuxième partie de la réponse. C'est que la mode, ça a été plutôt de se faire débrider par suite des offensives et du succès des offensives de l'impérialisme occidental en Asie, de la même que, façon que le même impérialisme fait ce qui me catastrophe, que des tas de très belles femmes des Antilles, d'Amérique et d'Afrique même maintenant se décrèpent les cheveux, alors que c'est si joli comme elles se coiffent leurs cheveux crépus. Croyez-moi, le vieux Sénégalais que je suis, hein, quand il les voit avec des perruques blondes, il déprime. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? La mode, on n'y peut rien. Elle est imposée par des commerciaux. Hein, si les gens se trouvent bien tels qu'ils sont, ça fait pas marcher le business.
Je m'excuse pour revenir encore une fois à la couleur de peau. Oui. Moi, ça m'a toujours intéressé avec les peuples asiatiques. Par exemple, il y a des Indiens du Sud qui sont très, très foncés. Il y a les Vietnamiens qui sont très, très clairs. Ou il y a, par exemple, les aborigines en Australie qui sont presque noirs aussi. Est-ce qu'on peut en faire une déduction que, par exemple, dire que les Vietnamiens, ils ont plus récemment peuplé le Vietnam et les gens des Andamans ou de l'Inde du Sud, c'est une population plus ancienne ou est-ce qu'on peut pas?
C'est très vraisemblable, mais le problème, c'est que tout ça s'est passé il y a longtemps, et ça n'a pas été observé. Donc, on peut toujours faire des hypothèses, mais tant qu'on ne peut pas les tester, ça reste des hypothèses hors du champ scientifique. C'est des explications possibles. Malheureusement, en science, moins on en sait, plus on en raconte. Parce qu'effectivement, on peut raconter des causes contradictoires. Quand on commence à bien comprendre quelque chose, en général, bon, on ne discute plus tellement, quoi. De même qu'on ne discute plus le principe de la transformation des espèces, on ne discute plus le principe de la transformation des couleurs de peau en fonction des lieux de résidence dans la préhistoire. On a des explications, mais sans pouvoir vérifier que ça s'est vraiment passé comme ça. On sait que les mélanomes sont bien plus fréquents chez les populations à peau claire dans la zone intertropicale, hein, et ça a même été vérifié statistiquement parce que vous avez des Chinois qui ont émigré en Californie. Et quand vous prenez les mêmes zones en Chine et en Californie à la même latitude, vous avez 4 fois plus de mélanomes chez les Chinois californiens que les Chinois de Chine. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'ils ne se mettent pas au soleil. Donc la culture et la mode, ça joue, forcément. Alors, je ne peux pas vous dire si les Vietnamiens sont plus clairs, parce qu'ils ne se mettaient pas au soleil avec leur grand chapeau, ou bien parce qu'ils sont arrivés plus récemment. C'est deux explications qui ont pu concourir les deux, et je suis bien incapable de vous dire en quelle proportion. Je ne connais pas assez bien l'histoire du Vietnam, mais là, on est quand même dans des zones de temps où l'histoire et l'archéologie peuvent nous dire des choses.
Bonjour, ben merci pour l'exposé. Je me demandais, est-ce qu'il serait possible que aujourd'hui, au final, on ait aboli la sélection naturelle pour la population humaine, puisque normalement la sélection naturelle pour les espèces, du coup, l'environnement exerce une pression pour sélectionner les individus les mieux adaptés à leur milieu, mais le fait que l'espèce humaine est, créer un environnement qui soit adapté à elle, un environnement non naturel, où c'est plus l'individu qui doit s'adapter à son milieu, mais le milieu, l'environnement qui a été adapté pour la population humaine. Du coup, il n'y a plus cette pression de l'environnement naturel pour sélectionner les individus, etc. Est-ce que, au final, voilà, aujourd'hui, cette sélection naturelle pour l'espèce humaine, elle est abolie? Et au final, il y a juste une évolution qui est basée sur le brassage génétique, la diversité génétique, est-ce qu'il y a, c'est uniquement le règne du hasard au final?
Alors, presque aboli à la rigueur dans certaines populations. Mais qu'est-ce que c'est la sélection naturelle? C'est le fait que les uns meurent plus que les autres, ou font moins d'enfants que les autres. La deuxième partie, faire plus ou moins d'enfants, est plus importante dans la sélection naturelle que la partie mourir plus ou moins, sauf quand la mortalité est très forte. Alors, Ce qui est certain, c'est qu'on est passé de régimes de très forte mortalité, forte natalité, à des régimes actuellement de très faible mortalité et faible natalité. Ça, c'est ce qu'on a appelé la transition démographique. Avec le fait que ça s'est pratiquement toujours déroulé dans le sens, baisse de la mortalité d'abord, baisse de la fécondité plus ou moins longtemps après. Nous, en Europe, on a mis 200 à 400 ans pour faire baisser la natalité. Dans des pays comme l'Iran, l'Indonésie ou autres, ils font ça en une génération, voire moins. Donc, il y a une augmentation de la population pendant cette période de transition. Hein, c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus de sélection naturelle ? Non, bien sûr. Puisqu'il y a toujours une mortalité, ne serait-ce que tout ce qui est dû aux malformations génétiques, et il y a même une mortalité intra-utérine importante, hein, puisqu'il y a une très grande élimination d'œufs et d'embryons après la conception. On ne sait pas le mesurer la première semaine après la conception, hein, mais on sait qu'elle est importante, et c'est une mortalité des embryons qui décroît au fur et à mesure de la vie fœtale. Et puis alors après, on arrive aux situations. Des populations, moi j'ai connu il y a très longtemps au Sénégal oriental, à la fin des années 60, c'est vous dire si je suis vieux, j'ai connu une population dans laquelle on a fait les premières statistiques de ce genre, il y avait plus de 50% des gamins qui mouraient avant 7 ans. Plus de 50%. C'est des conditions de sélection très intenses. Et puis, les femmes avaient en moyenne avaient un nombre d'enfants très variable entre 0 et maximum 8-9 parce qu'il y avait des interdictions de rapport sexuel pendant l'allaitement. Hein. Donc, elles avaient relativement peu d'enfants et elles en perdaient la moitié. Ce qui fait que quand la survie aux âges élevés dépend des enfants, il n'y a pas d'assurance vieillesse. Hein, là-bas. Donc ça, c'était des conditions de sélection extrêmement intenses. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 1% avec la mortalité périnatale et néonatale. Elle est extrêmement faible. Donc c'est une sélection qui est peu intense. Une fois qu'on est né, la plupart des gens vont survivre jusqu'à l'âge de la procréation. Donc il y a peu de sélection sur la mortalité. Et puis après ça, presque tout le monde fait 2 enfants. Peu de variation. Donc du temps où il y en avait qui faisaient 0, 1 ou 2 enfants, et puis d'autres qui en faisaient 15 ou 18, hein, ceux qui gagnaient au vœu de la sélection naturelle, c'était les prix cognac. Vous voyez, c'est les prix qu'on donnait autrefois aux braves dames qui avaient fait 15 ou 18 marmots dans leur vie. Bon. C'est ça la sélection naturelle. C'est pas sélectionner les plus beaux, les plus forts. C'est une condition minimale, survivre, jusqu'à là où on fait des petits. Et deuxièmement, c'est faire le plus de petits possible. Donc, elle existe toujours, mais elle est évidemment beaucoup moins intense. Ce qui fait que si on mise sur elle pour expliquer de futures transformations de l'espèce, il faudra attendre longtemps pour voir quoi que ce soit. Au revoir.
Oui, je voulais revenir sur la période Néandertal-Sapiens quand on est sorti de l'Afrique. J'avais entendu qu'il existait d'autres peuples, l'île de Java, des peuples en Asie qui étaient très proches de nôtre, et je voulais savoir si t'en avais pas, comme t'en avais pas parlé, si c'était parce qu'on avait gagné ou parce que c'était controversé, et si on trouve des traces de leur gène à eux dans notre génome à nous. Est-ce qu'on viennent tous de l'Afrique ou est-ce qu'on ne s'est pas un peu mélangé à ceux qui existaient avant, parce que ça m'étonnait que on vienne tous que de cet endroit-là et qu'à aucun endroit dans le monde il y ait d'autres espèces au même moment à 100 000 ans près qui aient connu la même évolution que nous.
Alors, il y a eu 2 parties dans mon exposé. D'abord, j'ai parlé des 100 000 siècles avant dont je n'avais pas parlé dans la conférence. Là, d'après ce que Darwin a proposé, les choses sont parfaitement claires. Les ancêtres de tous les humains actuels et de tous les humains fossiles sont sortis d'Afrique. Mais ils sont sortis à différentes périodes. Il y a eu plusieurs sorties d'Afrique. Il y a eu une sortie d'Afrique du groupe Homo erectus, qui a en particulier fait sortir ceux qui sont allés jusqu'en Géorgie il y a un peu moins de 2 millions d'années. Après, il y a eu d'autres sorties de ceux qui ont été taillés des bifaces en Asie jusque vers la Sibérie, nettement plus tard. Et puis, après, il y a eu vraisemblablement une sortie des sapiens d'Afrique, il y a environ entre 100 000 et 200 000 ans avant nous, en passant par la Palestine, et ceux-là ont pu rencontrer des descendants de ceux qui étaient sortis avant. Alors, il y a en particulier un petit doigt, une phalange osseuse qui a été retrouvée et qui a suffi à des collègues généticiens et paléontologues pour affirmer un troisième groupe après les Néandertaliens et les Sapiens. Et ils leur ont trouvé, d'après des indices à confirmer, une certaine parenté avec des vents de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Effectivement, parmi ceux qui sont sortis d'Afrique il y a longtemps, il est possible que certains se soient métissés avec ceux qui sont sortis plus tard. Ça s'est bien fait avec les Néandertaliens. On a, parmi les populations européennes et asiatiques, que les Africains, on n'a pas bien cherché, donc c'est un peu gonflé de l'affirmer comme certains collègues qu'il n'y en a pas, mais nous, on a 4% de gènes néandertaliens. Hein? Si vous regardez Depardieu, c'est clair.
Moi, j'aurais voulu savoir que si on devait repartir à zéro tous ici, est-ce qu'on s'en survivrait? Est-ce qu'on survivrait en repartant avec tout ce qu'on sait maintenant dans des conditions d'époque de sapiens? On survivrait?
Moi, je peux vous dire, par mes expériences de recherche de terrain, que je ne survivrais ni au Groenland, ni au Sénégal oriental. Enfin, c'est exactement comme les animaux domestiques. Si vous lâchez des farolais dans la nature, il n'y en a plus l'année d'après. Hein. Et moi, c'est pareil. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus doués que moi, hein, parmi ceux qui font des expériences de survie. Mais on a pris certaines habitudes de confort. Je vais quand même essayer d'en profiter pour dire quelque chose d'intelligent. On néglige l'importance de la culture de survie dans un environnement donné. La culture de survie dans un environnement donné, ça ne s'improvise pas. C'est le fruit d'une expérience séculaire, c'est le fruit de vents qui nous ont précédés pendant des dizaines de milliers d'années. Les vents de Kafzeh en Palestine il y a 1000 siècles, ils étaient aussi malins que nous, voire plus malins que nous. Hein, ils avaient des cerveaux qui étaient tout à fait semblables aux nôtres. Ils n'auraient pas enterré leur mort avec des rituels funéraires, fabriqué des outils compliqués et tout, s'ils n'avaient pas eu tout ce qu'il fallait pour. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai aussi pour les animaux. Ce qui fait que si on s'étonne à l'heure actuelle de l'échec de la réintroduction des orang-outans ou des autres primates qu'on essaye de réintroduire dans la nature, la raison est extrêmement simple. Quand ils ont été élevés dans un environnement humain, ils n'ont pas appris à survivre dans la forêt ou dans la savane. Et quand vous les lâchez dans la forêt et la savane, ils ne savent pas se nourrir, ils ne connaissent pas les dangers. Un gorille lâché dans la savane qui a été élevé en milieu humain, il ne sait pas quelles plantes sont bonnes ou pas bonnes à manger. On a vu des mères gorilles empêcher leurs petits de manger des plantes toxiques. Bon, le gorille qui a vécu à la ménagerie du jardin des plantes, autrefois vous l'auriez lâché dans la forêt, il n'avait aucune chance de survie. De même que les orang-outans, et j'ai beaucoup de sympathie pour les expériences, par exemple chez les bonobos de Claudine André, qui essaye de réinsérer dans son campement pour bonobos, des bonobos dans la nature, mais jusqu'à nouvel ordre, ils resteront toujours dépendants d'interventions humaines pour survivre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce que bientôt il n'y en aura plus à l'état sauvage. Mais c'est très très compliqué. La culture la tradition, si vous voulez réserver le mot culture aux humains, la tradition, ça existe aussi chez les animaux, et pas seulement chez les singes. Les seuls qui ont eu des succès de réintroduction dans la nature, c'est les chèvres et les lapins. Ça, ça marche bien. Les chèvres, sur peu de temps. Mais les chèvres, on les a jamais domestiqués, c'est une autre histoire. Oui.
Il y a eu, il y a quelque temps, il me semble, une découverte des scientifiques concernant un nouvel homme ou un autre homme, l'homme de Flores, en Indonésie. Oui. Et ils se posaient des questions, justement, enfin, ce qu'ils y ont répondu, sur son origine, sa longévité au sein de son milieu, et même les interconnexions avec, les échanges avec même des hommes, on va dire, contemporains. Donc voilà, qu'en est-il de cet homme de Flores?
Alors, je voulais en parler pour répondre à un monsieur qui avait posé cette question et qui pensait peut-être effectivement à l'homme de Flores. L'homme de Flores, il est embêtant parce qu'il est, relativement récent. Relativement très récent, donc contemporain des sapiens, et puis il est extrêmement petit, mais extrêmement petit. Alors on a des populations très petites, hein. Je vous rappelle qu'on a des populations sur Terre où les tailles moyennes masculines sont de l'ordre d'un mètre vingt, féminines 8 à 10 cm de moins, mais lui il est encore plus petit, mais ce qui est encore plus embêtant, c'est son volume cérébral qui est encore beaucoup plus petit que ce que l'on attendrait pour un individu de sa taille. Et il est quasiment à la limite des hommes très anciens, habilis ou bien dans la zone de variation des australopithèques ou bien des grands gorilles. Alors, les paléontologues et anatomistes dont je ne suis pas essayent de le raccrocher aux Erectus, sans doute à cause des Erectus de Java qui n'étaient pas si loin que ça. Ça me semble très, très arbitraire. Hein. C'est une histoire pour essayer d'expliquer un truc qu'on ne comprend pas. Il semble à peu près exclu que ça ait été des cas pathologiques comme ça avait été supposé par certains. Mais on a apparemment une population humaine qui a fonctionné avec des cerveaux, j'allais dire scandaleusement petits. Ça prouve que la miniaturisation... ça peut très bien se réaliser, ce qu'on savait déjà, parce que entre un rat et une vache, si vous faites des tests de performance intellectuelle, le rat l'emporte sur la vache, et pourtant la vache elle a 400 cm3 de cerveau et le rat beaucoup moins. Donc le volume ne fait pas la performance en matière de cerveau. Ce qui fait que vous pouvez, mesdames, être rassurées, vous avez en moyenne 100 cm3 de moins, 100 grammes de moins de matière grise, mais... c'est pas ça qui vous empêche d'être non seulement belle, mais fort intelligente. Là, c'est... je vais pécho ce soir. Hein.
Bon, je vous remercie. Pour ce qui est de la survie, je serais incapable de reconnaître du persil en dehors du carré de jardin où c'est marqué persil. Ça, c'est pour la survie. Non, ce qui est, la question que sur quoi je voulais revenir, c'est quand vous avez évoqué les distances génétiques, où vous montrez que l'espèce, enfin, la variété Homo, semble être issue d'un groupe très petit. Est-ce qu'on a une idée de...
C'est pour le sapiens hein, que j'ai dit ça.
Hein?
C'est pour le sapiens que j'ai dit ça.
Oui, c'est ça, oui. Bon. Oui.
Parce qu'il faut bien voir qu'il y a eu deux étapes. Il y a eu la différenciation des grands singes, où il y a eu une population préhumaine dont on ne sait rien du tout hein, il y a 4 à 6 millions d'années. Hein, on ne sait pas grand-chose. Et puis il y a eu la deuxième étape, nos ancêtres directs à nous. Donc les sapiens... résultant d'une autre sortie d'Afrique extrêmement plus tardive, avec moins de 200 000 ans en tout cas, et plus vraisemblablement 100 000, voire moins, et qui ont peut-être rencontré des gens avec qui ils étaient compatibles. Hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon. Excusez-moi d'avoir vous avoir interviewé, je vous laisse poser votre question.
Non, mais c'était l'idée, c'était de savoir, justement, vous y répondez en partie, de savoir si on peut... comment on peut caractériser, disons chronologiquement dans le temps, l'apparition de la variété que nous sommes. Quoi. Si elle est issue d'un petit, comme vous le suggérez, d'un petit groupe finalement. Alors petit, je ne sais pas ce que ça veut dire par contre.
Bah, petit, les populations de la préhistoire au paléolithique étaient rares. Quand on utilise la variation génétique actuelle, on peut donner des explications, des chiffres, des estimations très grossières des effectifs des ancêtres réels de la préhistoire. Et quand on fait ça pour le paléolithique, on trouve des effectifs de reproducteurs par vénération qui auraient tourné entre 5 et 10 000 maximum. 5 à 10 000 pour toute la planète. Les ancêtres, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas d'autres qui n'ont pas laissé de descendants. Hein. Mais les ancêtres réels, 5, 10 000, un peu plus des fois, ça veut dire un recensement, quelque chose qu'on fait entre, je donne une fourchette large, entre 50 000 et 200 000. On n'est pas des millions. On n'est pas des milliards. Ou alors, les autres, ils n'ont pas laissé de traces. Mais de toute façon, écologiquement, on ne pouvait pas être des millions ou des milliards. Ah ben, c'est pas moi. Moi, ça va, oui.
Mais vous avez dit que les préhumains et les ancêtres avant sont mélangés pendant un moment.
Oui.
Et moi, j'avais compris que... le passage du singe à l'homme, en gros, c'est une fusion de chromosomes, donc c'est un passage qui rend toute hybridation impossible. Hein, donc, je n'arrive pas à concilier les deux.
Ouais, ça, c'est un résumé dramatique qui avait été donné par Jérôme Leven, à l'époque président de Laissez-les-Vivre. Parce que il fallait que ça soit fait comme ça. Hein. Pour être en accord avec la théologie, il fallait que l'âme, elle débarque d'un seul coup. Alors, je me souviens d'un exposé qu'il avait fait. Alors, ça ne me ravenit pas, hein, j'étais encore... étudiant assistant en 1965 au muséum, il avait fait un exposé qu'il avait appelé Adamisme et évolution, dans lequel il racontait l'histoire des chromosomes de l'homme et du chimpanzé. Il s'intéressait qu'au chromosome numéro 2 et il donnait une hypothèse absolument ahurissante, comme quoi pour faire le premier humain, il aurait fallu que deux jumeaux masculins, il y en ait un qui perde son chromosome Y et que du coup ils deviennent une fille et qu'en même temps ils aient tous les deux cette fusion des chromosomes du chimpanzé qui donne le chromosome numéro 2 humain. Et puis, à la fin de son exposé, il balançait négligemment si ça c'est une affaire de chromosome, pourquoi pas une côte? Alors ça c'était assez drôle parce que il avait fait ça avec un immense talent devant tous les profs néo-darwiniens, communistes de la faculté des sciences de Jussieu, mais il avait un tel bagou que personne, on a été deux petits assistants à protester contre cette imposture, parce que évidemment il y a des tas d'autres mutations tout aussi importantes et ça s'est pas fait d'un seul coup. Pour fixer les différences génétiques qu'il y a entre les chimpanzés, les humains et les gorilles, il a fallu une assez longue durée pendant laquelle les hybridations devaient rester possibles, parce que sinon ça n'aurait pas eu lieu. Donc c'est un processus compliqué, parce qu'on est amené à supposer que plusieurs fois, il y a eu un processus au cours duquel d'abord l'hybridation restait possible entre des êtres qui n'avaient pas le même équipement génétique, et puis après, s'établissait une interstérilité. Et ça, ça a dû se produire autant de fois qu'il y a de différences importantes, celles que j'ai soulignées tout à l'heure. Donc de toute façon, ça n'a pas pu être un truc instantané, et n'en déplaise au Vatican, on ne voit pas dans les chromosomes le moment où l'âme aurait été insufflée dans l'ADN. Est-ce que j'ai répondu ?
Cette hybridation, ça fait quand même avant le passage, avant la fusion, ou après, ou alors il y en a fusé dans les deux sens ou... Parce qu'aujourd'hui, il se trouve qu'on n'a pas le même nombre de chromosomes que les singes actuels.
Non, on a la fusion du 2, mais ça c'est clair, mais on ne peut pas la dater. On n'a aucun moyen de savoir quand a eu lieu une fusion de chromosomes. On arrive à faire à dater des fausses comme ça, fait les souris, mais fait les souris, on a beaucoup plus d'informations que fait les humains. Et on expérimente un petit peu plus facilement.
On s'arrête là. On laisse Merci. Manger André Langanet. Merci, c'était très nourrissant, très complet. Mais on va le laisser manger aussi. Merci beaucoup. Prochaine exposé, donc à 13h30, sur le soleil, notre mystérieux soleil, avec Alain de Sacha-Brun, un astrophysicien.
Oui, bonjour.